la psychanalyse est une façon, bien sûr, il y en a d'autres, et tout le monde n'a pas besoin de faire un travail de type psychanalytique, on est bien d'accord. Mais lorsqu'il y a une angoisse profonde, lorsqu'il y a des dysfonctionnements qui empêchent de vivre selon le plan prévu par Dieu, c'est-à-dire en étant un homme vivant, debout, qui peut déployer son énergie pour aller vers lui-même et vers les autres, et qu'il y a vraiment une angoisse profonde, des dysfonctionnements qui perturbent la vie de soi et des autres, eh bien, ça peut être une mise sous loupe, en quelque sorte, de ce qui nous constitue en profondeur et qui échappe à notre conscience. Ce cadre très précis permet de pouvoir être attentif aux mouvements inconscients qui nous échappent et qui ont constitué en quelque sorte les conflits intrapsychiques. Vous savez, c'est comme des nœuds. Alors on essaye de les dénouer et puis de renouer les fils qui auraient dû être noués, qui n'ont pas été noués au cours de notre développement psychologique depuis notre naissance jusqu'à notre âge adulte. Et donc je crois que les chrétiens n'ont pas à redouter de se connaître mieux. Mieux on se connaît, plus on s'ouvre finalement à la possibilité d'être illuminé par la grâce ou d'être touché par la grâce, d'être aimé en profondeur par Dieu, par les autres et par soi-même. Il faut bien s'aimer soi-même pour aimer les autres et pour aimer Dieu. Et donc, il y a une détente qui peut se faire et qui peut permettre d'être plus humain et de mieux se sanctifier. Parce que finalement, vous savez, c'est un seul continuum et la sanctification est dans le prolongement de cette humanisation. Plus nous devenons des êtres humains, plus nous répondons au plan de Dieu, plus nous allons vers la possibilité d'être dans la sanctification qui est évidemment le projet humain ultime.
Et dans votre ouvrage « Le divin et le divan », vous montrez les dérives sur la santé psychique que peut apporter le milieu religieux. Quelles sont-elles, justement ?
Eh bien, écoutez, il faut d'abord préciser que, bien évidemment, la religion n'est pas en soi pathogène. Ce serait vraiment faux. Enfin, tout le monde en est convaincu. Mais, en revanche, toute démarche d'élévation humaine comporte des risques. Les risques sont d'autant plus élevés que les objectifs sont élevés. Par exemple, l'instruction d'un enfant comporte le risque de le saturer de notions plus ou moins abstraites au lieu de l'aider à penser par lui-même. Ou la philosophie risque d'entraîner les esprits qui sont trop anxieux dans des conjectures sans fin. Donc, chaque fois qu'il y a un objectif d'humanisation élevé, il y a des risques d'effets négatifs. Et alors, les risques psychologiques culminent avec la pratique religieuse, puisque c'est le plus élevé, ça vise le sommet de l'élévation humaine et spirituelle, à savoir la sainteté. Donc il peut y avoir, si vous voulez, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des rencontres malheureuses entre certains types de pastoral et certains types de fragilité de certains croyants. La liberté personnelle passe par la connaissance de soi, et on peut voir un emboîtement négatif de la religion et du psychisme par évitement de soi. Or, la liberté est vraiment le point fondamental voulu par la foi. Le Christ lui-même lui dit « La vérité vous rendra libre ».
Pouvez-vous nous donner des exemples de déséquilibre psychique qui soient liés à ce décalage entre l'idéal chrétien et l'évitement de soi ?
Si on peut parler d'une chose effectivement terrible, enfin tout à fait terrible, vraiment ces prêtres pédophiles en sont le paradigme, on peut dire, hélas, l'exemple manifeste. Le prêtre concerné par ce problème est souvent un bon prêtre, il ne faut pas le voir comme un mauvais prêtre. Il a développé une certaine générosité, il a étudié la théologie, il a exercé sa piété, il s'est investi fortement dans ses activités. Mais le problème, c'est qu'il s'est investi avec toute la partie de lui-même qu'il connaissait de lui et qui voulait aller vers cet idéal. Donc il y a une suradaptation qui lui a permis, hélas, de mieux laisser dans l'ombre une autre partie de lui-même, porteuse de son affectivité et de ses pulsions, notamment de ses pulsions sexuelles. Cet évitement de soi extrême s'est transformé peu à peu dans un cercle vicieux et ça a produit une division de lui-même. Mais jusqu'au jour où les pulsions devenues inavouables à force d'être restées dans l'ombre sans pouvoir être reconnues puis intégrées. Et alors, si vous voulez, à un moment donné, c'est comme si le couvercle sautait sans que la personne s'en rende compte et donc il agit son corps défendant. La pédophilie est l'exemple extrême et heureusement rare de ce qui est la conséquence de l'évitement de soi. Il y a d'autres situations de souffrance psychologique qui procèdent de la même problématique. Par exemple, certains responsables de communauté qui présente de nombreuses qualités, avec une générosité extraordinaire, une envie de se donner et de répondre vraiment à l'appel de Dieu, mais qui, faute d'une connaissance suffisante d'eux-mêmes, abusent d'une manière subtile, sans s'en rendre compte, de leur pouvoir. Il y a aussi des personnes qui se perdent elles-mêmes, finalement, dans le don de soi. C'est une autre manière de s'éviter. Et c'est un don de soi mal compris. Le don de soi, c'est bien, mais faut-il encore le bien comprendre? Et pour le bien comprendre, il faut se connaître, il ne faut pas s'éviter soi-même. Et le service des autres peut les amener à vivre à côté d'elles-mêmes jusqu'au moment où leur moi oublié, hein, ce qui les constitue et qui est oublié, une partie d'elle-même, se révolte. Alors ça donne une forme de dépression ou d'épuisement ou de maladie ou de troubles psychosomatiques. Donc il faut être attentif à se connaître bien pour pouvoir répondre d'une manière juste à l'idéal chrétien qui est proposé.
Et est-ce que la foi peut aussi être une source de guérison ou d'apaisement de problèmes psychiques ?
Bien évidemment que la foi est un apaisement et peut être tout à fait excellent pour guérir ou en tous les cas nous aider à vivre avec nos névroses et nos difficultés, en tous les cas nos difficultés psychiques. La foi constitue un ancrage dans la confiance en Dieu et donne aux croyants un soutien face aux épreuves. C'est énorme. Elle constitue aussi un ancrage dans la confiance en l'être humain et permet de soutenir cette longue marche personnelle que nous avons à faire vers la liberté, notre liberté. La foi, elle ouvre le cœur à l'amour de Dieu et au pardon, ce qui redonne à chacun sa dignité, c'est énorme. Vous savez, je crois que pour finir, on pourrait rappeler cette fameuse parole de Saint Irénée. La gloire de Dieu, dit-il, c'est l'homme vivant. Et souvent, j'avoue que j'ajoute, c'est l'homme vivant, debout et en marche. Et la foi est là pour nous aider, pour nous constituer comme des êtres vivants. Mais n'hésitons pas, de même que l'on va voir le médecin lorsque l'on est malade dans son corps, de même, on peut faire une démarche, ce n'est pas honteux, ce n'est pas contre la foi que cela s'inscrit. On peut aller voir quelqu'un qui a fait des études, qui a fait un travail sur lui-même pour aider à débrouiller ces choses qui nous empêchent psychiquement à être un être humain debout, vivant, en marche, vers sa liberté, vers Dieu, vers lui-même et vers les autres.